Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous sommes sur le polycopie à la page 97, au milieu de l'article 4 de la question 35. On est donc dans la deuxième partie. La deuxième partie, seconde à seconde, question 35 sur le dégoût spirituel. Nous sommes à la fin du traité sur la charité. Je vous rappelle où on en est. Et donc, saint Thomas va analyser les conséquences du refus de la charité. Il y a les vices contraires à la charité. Il a d'abord parlé de la haine. Et maintenant, il va parler du dégoût spirituel. On a déjà vu en grande partie cette question 35, mais on n'a pas terminé, donc j'en suis au article 4. La sédie est-elle un vice capital? Le dégoût est-il un vice capital? Je vous ai déjà expliqué que la sédie est une forme de paresse. Donc c'est un des péchés capitaux. Je vous rappelle la liste des péchés capitaux: l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'envie et la colère. Je vous rappelle aussi que le péché capital n'est pas forcément un péché mortel. Souvent, ce ne sont que des péchés véniels, mais qui ouvrent la porte à des tas d'autres péchés. C'est un peu une porte qu'on ouvre, si vous voulez, et n'importe quel étranger peut rentrer par la porte, laissée ouverte, hein, de façon très imprudente. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à la base de ce vice qu'on appelle donc la sédie, le dégoût spirituel, il y a la paresse. La paresse, surtout dans la matière spirituelle, va entraîner la tristesse, et la tristesse va entraîner le dégoût. C'est une question très importante pour nous, parce que malheur aux parents qui laissent ce dégoût spirituel s'introduire dans le cœur des enfants. Une fois que le dégoût spirituel, la sédie, est introduite dans le cœur surtout des adolescents et des adolescentes, il est très très difficile de l'en retirer. Il faut des conversions énergiques pour arriver à revenir à l'amour du bon Dieu. Donc, rappelez-vous, c'est cet ordre des choses. Donc, la paresse entraîne la tristesse entraîne le dégoût. Donc, comme le dégoût est une tristesse d'un certain genre, dit saint Thomas, il est rangé avec raison parmi les vices capitaux. Donc, nous avons déjà vu la première partie de cet article numéro 4, à la page 97 sur le polycopié. Il y a une phrase très importante de saint Thomas. Il dit que ceux qui ne peuvent goûter les joies spirituelles se portent vers les joies corporelles. C'est-à-dire, si je ne suis pas capable de remplir mon âme avec les choses importantes, je vais remplir mon âme avec les choses secondaires. Je ne suis pas capable de remplir mon âme avec des choses spirituelles, alors que mon âme est faite pour trouver la paix par la vérité, par la contemplation de la vérité. Eh bien, je vais utiliser mon intelligence, malheureusement, pour perdre mon temps avec des bêtises. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on... L'homme étant un animal raisonnable, il n'est pas possible de ne pas utiliser son intelligence. On a tous une intelligence. À partir du moment où on est homme, on a la nature humaine, on a une intelligence. Et malheur à celui qui refuse d'utiliser son intelligence pour ce pourquoi l'intelligence a été faite et donnée à nous par le bon Dieu. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Donc si je refuse d'utiliser mon intelligence pour chercher le vrai, comme l'âme a horreur du vide, comme l'intelligence a horreur du vide, l'intelligence va aller se vautrer, si vous voulez, dans la recherche du faux. Au lieu de se tourner vers le beau, l'intelligence va se tourner vers le laid. Donc, puisque la sédie, dit saint Thomas, est une tristesse, Il est juste d'en faire un vice capital. Et ceux qui ne peuvent goûter les joies spirituelles se portent vers les joies corporelles. Et c'est assez effrayant de voir les conséquences, d'après les pères de l'Église, de ce vice de la sédie, ce vice du dégoût spirituel. Dégoût spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une espèce de tristesse de penser aux choses divines. Tristesse de la prière. On voit souvent ça chez les adolescents qui traînent les pieds comme des boulets pour aller faire la prière en famille, pour dire le chapelet en famille, pour aller à la messe le dimanche. Oh, c'est encore dimanche, ils vont encore se lever, moi je voudrais rester au lit. Il ne faut pas tolérer ça chez les enfants. C'est aux parents, c'est tout principe de l'éducation, de donner à leurs enfants l'amour du bon Dieu. Malheur à vous, c'est pas donner l'amour du bon Dieu à vos enfants. Hein. Et c'est pas quand à 20 ans que vous allez leur donner cet amour. Il faut le leur donner quand ils sont jeunes. Alors, une chose aussi qui est très importante, c'est que cet assédie, ce dégoût spirituel, entraîne une superficialité de l'intelligence et de la volonté. Et la superficialité de l'intelligence, c'est l'intelligence qui devient incapable de s'occuper des choses importantes. Et donc l'intelligence, comme il faut qu'elle soit utilisée pour quelque chose, eh bien elle va aller s'occuper des choses secondaires, des choses sans aucune importance. Vous voyez ? Eh bien cette superficialité est une des racines du mode du libéralisme. Et cette superficialité, qui est aussi une conséquence, une fille du dégoût spirituel, de la sédie, va entraîner une conséquence redoutable, le refus d'étudier. La perte, si vous voulez, de l'habitude d'étudier, la perte du désir d'étudier. Et c'est terrible, parce que quand ce refus d'étudier est rentré dans une âme, bien, l'âme va, encore une fois, perdre son temps avec des choses sans aucun intérêt. Il y a des gens qui prétendent ne pas avoir le temps d'étudier la catéchisme, ne pas avoir le temps d'écouter un cours de doctrine, ne pas avoir le temps d'écouter un cours de formation spirituelle pour former un petit peu son intelligence et son âme, mais qui vont passer, par exemple, un temps considérable, tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, à regarder des bandes dessinées, toutes plus ou moins stupides. Bon, certes, il y en a qui sont bonnes, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques bandes dessinées historiques qui peuvent rattraper le reste, mais... Ce refus d'étudier entraîne une espèce de sclérose de l'intelligence. Et après, pour rattraper ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très difficile. Et regardez les conséquences de cette assédie, c'est terrible. Regardez ce que disent les pères de l'Église, Saint Grégoire et Saint Isidore, la malice, la rancune, la pusillanimité, la lâcheté, le désespoir, la dissipation d'esprit, l'oisiveté, la somnolence, la curiosité, la loquacité, l'agitation du corps et l'instabilité. Il me semble qu'une des clés pour comprendre cela, c'est justement le dernier point, l'instabilité. L'homme moderne est devenu tellement instable qu'il est incapable de s'atteler à une table, se mettre à une table et étudier quelque chose pendant plus de quelques minutes. On le voit très bien chez les enfants qui sont toujours fourrés devant la télévision, devant l'internet ou devant des écrans, ils ne sont plus capables de rester en place pendant plus de 5 minutes à une table. Vous voyez, d'où l'importance de faire quelque chose pour que nous retrouvions l'usage correct de notre intelligence. Donc je reprends là le texte qui est à la page 97 sur le polycopier. Saint Grégoire est plus exact en appelant la sédie une tristesse. Les cinq autres vices qu'il fait venir de la sédie appartiennent tous à l'évasion de l'esprit vers les choses défendues. Une espèce de rêverie extrêmement dangereuse qui fait qu'on est dans une espèce de refus du réel. On vit dans un monde virtuel. Le monde virtuel des écrans est terrible pour détruire complètement le réalisme de notre intelligence. Notre intelligence est faite pour découvrir le vrai à partir du réel. C'est c'est toute la base, si vous voulez, cette assédie sera à la base du subjectivisme philosophique. Quelqu'un qui aime le bon Dieu, quelqu'un qui veut utiliser son intelligence pour étudier Dieu et son catéchisme et son Église, eh bien, il ne va pas tomber dans le subjectivisme. Au contraire, quelqu'un qui a accepté ce dégoût spirituel, cette assédie, cette paresse spirituelle, va tomber dans le subjectivisme. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vous rappelle que le subjectivisme, c'est la soumission de la vérité à l'intelligence personnelle et individuelle. Au lieu que chaque intelligence se soumette à Dieu, qui est l'objet que nous étudions, donc qu'on appelle l'objectivisme, le réalisme, eh bien, on va soumettre l'objet qu'on étudie, par exemple le bon Dieu, à chaque intelligence. Donc à chaque intelligence, sa propre vérité, à chaque intelligence, son propre Dieu. C'est ce qu'on appelle le subjectivisme, qui fait un dégât énorme. Sans subjectivisme, il n'y aurait pas de modernisme dans l'Église. Quand Saint-Pédis a condamné le modernisme en 1907, il donne un nom à ce modernisme. Il l'appelle. Il dit que c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, mais quand il analyse la racine, il l'appelle le subjectivisme. Et donc, un subjectiviste, c'est quelqu'un qui va devenir incapable de s'occuper des choses importantes. Et donc, il se rattrape avec les détails, les choses sans importance. Donc, ce que dit ici saint Thomas, donc je répète cette phrase, tous les vices qui viennent de la sédie appartiennent tous à l'évasion de l'esprit vers les choses défendues. Et on dit que l'imagination et l'oisiveté, pardon, est la reine de tous les vices. Est la reine de tous les vices. Elle ouvre la porte à tous les vices. Donc quelqu'un qui commence à rêvasser sur des choses dangereuses peut arriver à des situations catastrophiques sur le plan moral, entre autres au niveau de la pureté. Donc là, j'ai mis certains textes de saint Thomas d'Aquin qui sont très importants, en bas de la page 97 sur le polycopier. Quand cette évasion a son siège au sommet de l'esprit, chez celui qui se dissipe à contre-temps dans tous les sens, on l'appelle l'agitation de l'esprit. Vous voyez, c'est une espèce de machine à laver là-haut. Ça tourne dans tous les sens. On le voit très bien avec les gens qui sont toujours placés devant la télévision. Ils sont incapables de rester calmes. Parce que leur tête est comme une télévision, si vous voulez, une télévision intérieure, et toujours en mouvement. On le voit très bien dans les exercices Saint-Ignace, quand on apprend aux gens à méditer, certaines personnes qui ont été contaminées justement par ces idées modernes sont incapables, au moins au début, de se mettre une demi-heure devant le sacrement en silence. Ils n'y arrivent pas, ils bougent dans tous les sens parce qu'ils ne sont pas habitués du tout à rester pendant une demi-heure sur un sujet déterminé pour essayer d'en comprendre le sens. Donc cette agitation d'esprit supprime la tranquillité d'esprit. Deuxièmement, dit saint Thomas, quand cette évasion de l'esprit vers les choses défendues se rapporte à la puissance de connaissance, on l'appelle la curiosité. La curiosité entraîne, attention, n'oublions pas ça, la curiosité entraîne l'amour des nouveautés. Ça, c'est en toute lettre dans Saint-Pédis, Pascendi, 1907, la condamnation du modernisme. Quand Saint-Pédis analyse les causes du modernisme, il donne la curiosité comme un des exemples. Comme une des causes. L'ignorance, l'orgueil et la curiosité, ou l'amour des nouveautés. Dans l'esprit de Saint-Pédis, la curiosité et l'amour des nouveautés vont de pair, c'est presque des synonymes. Et donc, cette curiosité fait encore une fois que les esprits curieux, dans le mauvais sens du terme, ne sont plus capables de s'atteler à quelque chose de fixe. Elles bougent tout le temps. Comme un papillon, si vous voyez, qui est incapable de s'arrêter sur une fleur pour en tirer le nectar, et qui va de fleur en fleur, qui finalement fait n'importe quoi. Continue, quand c'est assez dit, cette évasion de l'esprit vers les choses défendues se rapporte à la faculté d'élocution, on l'appelle le bavardage. Hein, le grand ennemi de la superficialité, c'est justement la méditation, le silence. Les gens modernes sont incapables de rester dans le silence. Quand on prêche les exercices Saint-Ignace, la première chose qu'on fait, c'est mettre les gens en silence. Le bon Dieu ne parle pas dans le bruit. Quand on est dans le bruit, on n'entend pas le bon Dieu, mais s'il nous parle, on ne peut plus l'entendre parce qu'il y a trop de bruit. Il faut aimer le silence. Malheur à ceux qui n'aiment plus le silence. Malheur à ceux qui ont peur du silence. Ils ne veulent pas rester dans le silence parce que quand on est dans le silence, ça oblige à penser aux choses importantes. Alors on garde un bruit de fond continuel pour éviter d'avoir à penser aux choses sérieuses. Quatrièmement, dit saint Thomas, quand cette évasion de l'esprit vers les choses défendues se rapporte au corps, incapable de demeurer dans un même lieu, on l'appelle la nervosité, si l'on veut signaler le vagabondage de l'esprit que manifestent les membres se répandant en mouvement désordonné. Vagabondage de l'esprit, si vous voulez, ça se traduit par un terme horrible d'ailleurs, mais qui est moderne et qui est utilisé par les jeunes, zappés, hein, zapping. Il parle toujours de ça. On passe d'une chaîne à l'autre à la télévision, on passe d'un site à un autre site sur Internet. On n'a pas d'idée fixe dans la tête, on va un peu n'importe où, quoi. On s'amuse, on regarde un peu n'importe quoi. Et c'est la meilleure façon de se mettre entre les pattes du démon qui va vous faire tomber là où il ne faut pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, une règle qu'il faut donner aux adolescents, c'est ne jamais aller sur Internet pour faire une recherche sans avoir un but précis. Il ne faut pas se mettre sur Internet en disant « je vais regarder ce qu'il y a, on va voir, puis je vais aller d'un site à l'autre, puis on verra bien. » Non, non. Le péché originel est là, il va nous pousser immédiatement à aller là où il ne faut pas. Enfin, cinquième conséquence de la cédille, donc l'évasion de l'esprit vers les choses défendues, c'est ce qu'on appelle l'instabilité, cinquième conséquence donc de cette évasion de l'esprit. Instabilité, si on veut signaler la diversité des lieux. L'instabilité peut désigner aussi l'inconstance dans les projets. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit à fond. On commence puis on arrête. On se décourage tout de suite. La cédille, le dégoût spirituel entraîne le découragement. Et donc là, on ouvre la porte à une autre catastrophe. C'est que la cédille spirituelle, le dégoût des choses spirituelles, entraîne une espèce de refus des choses sérieuses. Donc on est constamment dans les choses superficielles. Et cette instabilité empêche évidemment l'étude. N'oublions pas que pour arriver à tenir le coup aujourd'hui dans la foi catholique, il faut toute une série de choses. J'en ai souvent parlé, je m'excuse de revenir à ça, mais c'est tellement important. Il faut la prière, bien sûr, il faut les sacrements, il faut la pénitence, mais il faut aussi l'étude. Et l'étude, le pire ennemi de l'étude, c'est la cédille. Comme l'étude est l'ennemi de la prière. Si les jeunes modernes ne savent plus prier, c'est à cause de la cédille. Et donc, il faut reprendre le chemin à l'envers et remettre l'esprit à la prière pour supprimer la cédille, réapprendre aux gens à prier. Et on le voit, moi je l'ai vu de mes yeux vus, à chaque fois que je prêche les Gassis Satilia, j'ai prêché peut-être 300 fois, donc je commence un peu à les connaître quand même. Et on voit très bien au début la difficulté qu'ont les gens au début des 5 jours de Saint-Ignace, les difficultés qu'ont les retraitants à prier, ils n'y arrivent pas. Et il faut constamment les encourager, pousser les gens à prier, à suivre les règles de Saint-Ignace, à suivre les Gassis Saint-Ignace. Ils ont un mal fou pendant 2 jours, 2 jours et demi, parfois même 3 jours. Et à la fin des exercices, au bout de 5 jours, c'est magnifique de voir ces mêmes personnes qui avaient énormément de mal à prier, qui arrivent, avec un minimum d'effort, à faire une bonne méditation au bout de 5 jours. Pratiquement jamais vu quelqu'un qui a bien fait les exercices de cette nièce qui ne soit pas capable de faire une bonne méditation au bout de 5 jours. Vous voyez, d'où la nécessité de la vie de prière pour supprimer la cédille. Puisque la cédille, la paresse, le dégoût spirituel entraîne la suppression de la prière, la vie de prière, l'envie de prier. Il faut prendre le chemin à l'inverse. Remonter le courant. Donc, pour lutter contre la cédille, remettons nos enfants à la prière. Aimons prier dans la famille. Malheur aux familles qui ne prient jamais. Malheur aux époux qui ne prient jamais ensemble. Alors, une petite note en bas de la page 97, là. L'orgueil a comme premier rejeton la vaine gloire. Celle-ci corrompt l'esprit qu'elle domine et engendre aussitôt l'envie. Et donc, il faut méditer un petit peu sur ces choses-là. Donc, la conséquence, si vous voulez, de l'orgueil, une des conséquences de l'orgueil, j'en ai déjà étudié d'autres conséquences, comme le dégoût spirituel, là c'est dit, mais une autre conséquence, c'est l'envie qu'on va voir à la question 36. Alors, je vais maintenant étudier rapidement les parties de la somme théologique qui ne sont pas résumées dans le polycopie. Encore une fois, je ne peux pas tout mettre, je n'ai pas tout mis. Je pense que si j'avais à refaire ce polycopier complètement, je remettrais plus de choses. Mais je ne peux pas non plus avoir des polycopiers qui prennent des milliers et des milliers de pages, ce n'est pas possible. C'est une difficulté que j'ai par exemple dans l'autre cours que je donne tous les mardis d'exégèse. J'ai un polycopier qui fait déjà 700 pages. Pratiquement, qui va monter à 700 ou 750 pages, peut-être même 800 pages, ça fait lourd comme polycopier. Alors je divise en fichiers, bien sûr, mais oui, il faut absolument retrouver cet amour de la prière, cet amour des sacrements et cet amour de l'étude. Donc voyons un peu, question 36 de la Seconda Secundae, rapidement, l'envie, donc la jalousie. Hein. Je vous rappelle la liste des péchés capitaux, orgueil, paresse, gourmandise, luxure, avarice, colère et envie. Alors, il y a un lien évidemment entre l'envie et la tristesse. Donc, on va un petit peu voir ce que dit saint Thomas sur le sujet. Article 1, l'envie est-elle une tristesse? L'envie, dit saint Jean Damascène, est une tristesse que l'on ressent du bien qui arrive au prochain. Donc une jalousie. On souhaiterait que le prochain soit dans la débâcle, dans la mouise, et on voudrait qu'il lui arrive du mal. Et comme il lui arrive du bien, qui n'est pas de bien qui ne nous est pas arrivé à nous, eh bien on se décourage et on jalouse la personne qui a eu un bien que je n'ai pas. Tristesse, donc, que l'on ressent du bien qui arrive au prochain. Donc, l'envie consiste, dit saint Thomas, proprement dans la tristesse que nous fait éprouver le bien des autres lorsque le regardant comme notre mal, regardant comme notre propre mal, nous songeons qu'il diminue notre gloire ou notre excellence. Et la montée du voisin me diminue. Donc, la personne qui est à côté de moi qui monte, même si moi je n'ai pas bougé, en fait par rapport à lui, il est plus haut que moi maintenant, et donc j'ai l'impression d'avoir diminué. Et cela va entraîner cette jalousie, cette envie qui est terrible chez les gens. Malheur à ceux qui ont encore cette envie. C'est à tel point que l'envie poussée à son paroxysme, l'envie des grâces de tuer, attention, est un péché contre le Saint-Esprit, hein. Un péché qui est irrémissible dans le sens que tant qu'on reste dans cette situation-là, on ne peut pas être pardonné par le bon Dieu. Donc, deux sortes de gens sont très envieux, les ambitieux et les pusillanimes. Pusillanimes, c'est ceux qui ont une toute petite âme. Les ambitieux parce que toute gloire leur fait ombrage, les pusillanimes parce qu'ils se croient surpassés par les moindres avantages d'autrui. Donc, derrière cette jalousie, qu'est-ce qu'il y a? Derrière cette jalousie, il y a l'orgueil. Deuxième article. L'envie est-elle un péché? Article 2 de la question numéro 36. L'envie est-elle un péché? Bon, voilà donc ce que dit saint Thomas. S'attrister du bien d'autrui, parce que l'on craint un dommage pour soi ou pour d'autres personnes, nous l'avons dit, ce n'est pas de l'envie. Un tel chagrin peut exister sans péché. Par exemple, si vous constatez que une chose obtenue par le prochain peut faire un certain dommage à ma famille, à votre famille, eh bien, ce n'est pas un péché d'avoir une certaine tristesse de voir que le prochain à côté de chez moi peut humilier ma famille, peut blesser ma famille. S'attrister du bien d'autrui. Non parce qu'un autre possède ce bien, mais parce que l'on voudrait le posséder soi-même, ce n'est pas non plus de l'envie. Ce zèle est même louable quand il a pour objet des biens spirituels. C'est-à-dire que je constate que le voisin prie facilement, que la famille à côté de chez moi peut réunir toute la famille au chapelet le soir sans que ce soit la Troisième Guerre mondiale dans la maison pour obtenir que tout le monde vienne au chapelet, et alors que chez moi c'est impossible, les enfants courent dans tous les sens, j'arrive jamais à les réunir pour faire le chapelet. Eh bien, le fait que mes voisins prient facilement peut être une stimulation dans le bon sens pour m'aider à changer ce qu'il faut changer pour que moi aussi je puisse y arriver dans ma propre famille. Donc, l'envie consiste proprement à être fâché de ce qu'un autre a plus de bien que nous. Ce sentiment est un péché puisque l'on s'afflige d'un bien dont on devrait se réjouir du bien du prochain. C'est-à-dire que si je jalouse le bien du prochain, à ce moment-là, oui, c'est un péché. Troisième article, l'envie est-elle un péché mortel? La réponse est oui, mais. C'est-à-dire que c'est un péché mortel dans certaines circonstances, mais pas forcément dans toutes les circonstances. L'envie, dit saint Thomas, est de sa nature un péché mortel. Mais il faut se souvenir que dans tous les péchés appelés mortels de leur genre, de leur nature, il y a des mouvements imparfaits qui ne sont pas des péchés mortels. Donc, n'oublions pas que, c'est toujours la même règle, pour qu'il y ait un péché mortel, il faut trois conditions, dit le catéchisme. Il faut la matière grave, il faut la connaissance, il faut le consentement. Donc si une de ces trois conditions manque, soit la matière grave, soit la connaissance, soit le consentement, eh bien il n'y a pas péché mortel, c'est valable aussi pour l'envie. Quatrième article, je vais un peu vite parce que c'est des choses relativement faciles. Quatrième article de la question 36, l'envie est-elle un vice capital? J'ai répondu à cette question en donnant la liste des péchés capitaux. Oui, l'envie est un péché capital dans le sens qu'il ouvre la porte à bien des problèmes. L'envie qui est une tristesse du bien du prochain est pour la même raison un vice capital. Parce que cette envie va entraîner une jalousie terrible. Cette jalousie va faire perdre la paix intérieure, elle va amener la tristesse. Oui, il y a un lien très fort entre l'envie, la jalousie et le dégoût spirituel. Si je laisse l'envie et la jalousie rentrer dans mon âme, cela va entraîner mon âme à la cédille, au dégoût spirituel. Alors on peut réfléchir aux conséquences de l'envie. Encore une fois, si on dit que l'envie est un vice capital, c'est que l'envie va ouvrir la porte à un tas d'autres péchés. Alors, quels sont ces autres péchés à qui on ouvre la porte par l'envie? Le murmure, la détraction, la médisance, c'est pareil. Le murmure, la médisance, la joie dans l'adversité du prochain, l'affliction dans sa prospérité, enfin la haine. Voilà, ces enfants. Donc, l'envie non régulée, si vous voulez, non dominée, eh bien, va entraîner la haine. Et la haine détruit complètement la paix intérieure. Et c'est terrible d'avoir, aujourd'hui on voit de plus en plus ces haines, toute la révolution est basée sur la haine. La contre-révolution est basée sur la charité. On voit très bien ça dans l'histoire du communisme par exemple, une dialectique révolutionnaire qui poussait à la haine constante de l'autre. Donc la haine du patron, la haine du supérieur, la haine de ceux qui me commandent, pour que justement on puisse détruire complètement toutes les racines même des familles révolutionnaires, et en faire ce qu'on appelait un prolétariat sans racines. Et donc sans racines, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils font n'importe quoi. Passons à la question 37, la discorde. Encore une conséquence du refus de la vertu de charité. C'est un vice contraire à la charité. La discorde ou la dissension. Alors, saint Paul a placé la discorde ou la dissension au nombre des œuvres de la chair dont il a dit, ceux qui se rendent coupables ne parviendront point au royaume de Dieu. Donc la discorde est un péché mortel en soi. Alors attention, encore une fois, il peut y avoir des circonstances qui font que ce péché mortel n'est que véniel. Il faut cependant savoir, dit saint Thomas, que cette discorde détruit la concorde de deux manières. Donc le contraire de la discorde, c'est la concorde. Directement et indirectement, c'est-à-dire avec intention ou sans intention. Donc, cette discorde qui la détruit directement, je reprends. Il faut cependant savoir que la discorde détruit la concorde de deux manières, directement ou indirectement, avec intention ou sans intention. Donc, celle qui la détruit directement, en résistant sciemment et avec intention, soit au bien divin, soit au bien prochain, du prochain est un péché mortel. Bien sûr. Bon. Celle qui la détruit indirectement, lorsque plusieurs personnes voulant opérer un bien pour la gloire de Dieu ou l'utilité du prochain diffèrent d'opinion, l'une estimant une chose comme bonne, l'autre pensant le contraire, n'est point un péché. On peut avoir des idées différentes sur des sujets libres. D'accord ? Tant qu'elle n'est point accompagnée d'erreurs sur les choses nécessaires au salut, ni jointe à une injuste opiniâtreté. Donc la concorde, qui est le fruit de la charité, et l'union des volontés et non des opinions. Attention. Je répète, la concorde est l'union des volontés et non des opinions. C'est très important dans un mariage chrétien. Dans un mariage chrétien, il faut l'union des volontés. Ça ne veut pas dire forcément l'union des opinions. Même dans un mariage chrétien, même dans le meilleur des mariages chrétiens, on peut avoir des opinions diverses, encore des opinions différentes sur des sujets libres. Mais il faut aussi en même temps garder l'union des cœurs, l'union des volontés. Donc la concorde est le fruit de la charité et l'union des volontés. Et donc la discorde ou la dissension va détruire cette charité. En gros, si vous voulez, on pourrait définir la dissension, la discorde comme l'esprit révolutionnaire. L'esprit qui, si vous voulez, la chenille, ces cinq curés d'Ars qui comparent cette discorde à la chenille qui laisse sa bave, la trace de sa bave partout sur les feuilles sur lesquelles elle est passée. Vous voyez, il y a des gens comme ça, vous voulez, c'est très intéressant de voir ça. Il y a des gens, si vous voulez, vous mettez dans un groupe où tout le monde se déteste, où les gens manquent de charité très facilement, eh bien, au bout d'un certain temps, grâce à la bonne influence de cette personne, eh bien, la charité revient dans le groupe. Au contraire, il y a d'autres personnes, vous les mettez dans un groupe où il y avait la charité, et au bout de quelques temps avec ce groupe, la charité a disparu, et la discorde est apparue immédiatement. Vous voyez ? Donc, quand la volonté de quelqu'un est en opposition avec celle de Dieu, elle n'est qu'une fausse règle qui n'est pas permis de suivre. Alors, attention. Vous voyez, donc, il faut, encore une fois, faire attention à ce qu'on garde cette charité, cette concorde dans les cœurs au niveau des volontés, avoir la volonté de tous travailler ensemble pour la plus grande gloire du bon Dieu. Alors, attention. Union des volontés ne veut pas dire de cacher le péché. Union des volontés ne veut pas dire de se taire alors qu'il faut parler pour reprendre une personne dont on a la charge et qui est en train de vivre dans le péché mortel. Concorde dans une maison, ça ne veut pas dire d'accepter l'adultère du fiston. Concorde dans une maison, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que ma fille de 17 ans s'habille comme une prostituée dehors. Vous voyez ? Donc, il faut demander au bon Dieu avec humilité cette grâce de la concorde. Quand il y a une concorde dans une communauté, c'est magnifique. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une communauté religieuse, quand il y a la concorde, à ce moment-là, c'est vraiment le paradis sur la terre. Mais s'il n'y a pas la concorde et qu'il y a la discorde, la dissension, cela entraîne tous les péchés graves contre la charité, surtout les péchés de la langue. La calomnie, la médisance, le jugement téméraire, etc. Article 2 de la question 37. La discorde est-elle fille de la vaine gloire, fille de l'envie? La réponse est oui. Lorsque quelqu'un s'attache à son sentiment propre, il préfère ce qui lui appartient à ce qui appartient aux autres. Mais quand cet attachement est désordonné, il procède évidemment de l'orgueil et de la vaine gloire. Alors attention, il faut bien distinguer les choses. On ne demande pas, évidemment, il faut faire attention, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas céder. En matière, par exemple, de foi, en matière de catéchisme, en matière de doctrine de l'Église, il faut avoir le courage d'affirmer la vérité, même si elle ne plaît pas, même si elle ne passe pas. Combien de fois j'ai eu cette réflexion de la part de gens, ils n'étaient pas contents parce qu'à une conférence, je disais par exemple, hors de l'Église catholique, pas de salut. Et j'étais interrompu parfois par des gens qui me disaient, mais monsieur l'abbé, pour qui vous vous prenez? Pour qui je me prends? Je répondais, je me prends pour un prêtre catholique. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Donc, la vaine gloire entraîne la discorde en fait. C'est l'orgueil qui entraîne la vaine gloire entraîne la discorde. Donc pour enlever la discorde, pour rétablir la charité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité. Et c'est ce que dit saint Thomas, la discorde par laquelle on se fixe avec opiniâtreté à son sentiment propre, est donc fille de la vaine gloire ou de l'amour propre, bien que souvent elle naisse de l'envie. Question 38, c'est une question sur laquelle j'ai passé rapidement. La contention, la dispute, c'est un petit peu un parallèle de la question 37 sur la discorde et la dissension. Il y a certaines distinctions que saint Thomas fait, donc il fait une question à part de la contention, la dispute. La contention, demande-t-il, article 1 de la question 38, la contention est-elle un péché mortel? Alors, il y a une distinction très importante que fait saint Thomas. Disputer avec l'intention de combattre la vérité est une chose répréhensible. Au lieu que si l'on a l'intention de combattre l'erreur, c'est un acte louable. Il y a des moments où il faut savoir parler. Il y a des moments où le silence est une acceptation de l'erreur et de l'hérésie. Il y a par contre des moments où le silence est charité. Pour éviter de mettre de l'huile sur le feu et de mettre le feu aux poudres alors que ce n'est pas nécessaire, il faut parfois se taire. Donc je répète cette distinction. Disputer avec l'intention de combattre le vrai est une chose répréhensible. Si on a l'intention de combattre l'erreur, c'est un acte louable. Contredit-on la vérité avec un mode déréglé, la contention est un péché mortel. Encore une fois, il faut que les choses soient raisonnables. L'homme est un animal raisonné. Donc on doit utiliser notre intelligence et notre volonté pour réguler les choses. Défend-on la vérité avec un mode convenable, la contention est méritoire. Donc il y a des moments où toutes les vérités ne sont pas à dire. Il faut attendre pour que ça soit mieux reçu. Il y a des gens qui disent « Ah, mais si vous vous taisez sur une chose importante, ami de l'erreur. » Non, pas forcément. Si je me rends compte que la personne en face de moi n'est pas du tout prête, n'est pas du tout mûre pour recevoir certaines vérités, j'attends. Il vaut mieux attendre un peu, être un peu patient, puis après revenir à la charge lorsque la personne sera capable d'écouter et de comprendre ce que je lui dis. Donc, si vous voulez, si je défends la vérité de façon déréglée, ça peut être, on tombe dans la contention, dans l'esprit de dispute. Ce que Monseigneur Lefebvre a appelé le zèle amer. Il y a un zèle qui est bon pour le salut des hommes, et puis il y a un zèle amer. Le zèle amer, c'est un zèle qui rend les choses odieuses. Il y a parfois des gens qui ont une telle façon de présenter la vérité que quand on les écoute, on est d'accord avec eux très facilement. Puis il y a d'autres personnes qui vont présenter la même vérité, mais avec une telle acrimonie, une telle presque dureté et méchanceté qu'on a envie de leur, on n'est pas d'accord avec eux dès le départ. Je me rappelle cette réflexion dans une école dans laquelle j'étais, et on m'avait dit, une parent m'avait fait cette réflexion, elle me dit, il y a parfois des prêtres, me disait-il, un père de famille, il me disait, les prêtres quand ils demandent quelque chose, on a envie de dire oui. Puis il y a d'autres prêtres, ils demandent la même chose, on a envie de dire non. Ça dépend de quoi ? La façon dont c'est demandé. Vous voyez ? La façon dont c'est demandé. Il y a une espèce de dureté qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre avait ses défauts, comme tout le monde. Il n'était pas un saint. Hein ? C'est mon but n'est pas de canoniser Monseigneur Lefebvre. Mais Monseigneur Lefebvre avait cette extraordinaire mansuétude. Il avait cet extraordinaire esprit de charité. Et il détestait le zèle amer. Ce qu'il appelle le zèle amer, qui est un zèle de destruction. L'acte de la contention, donc, consiste à combattre sciemment une doctrine vraie. Alors là, c'est vraiment l'amitié avec l'hérésie. Tel n'est point le cas, bien sûr, des catholiques qui disputent contre l'hérésie. Une certaine vivacité de langage n'est pas une faute mortelle. On peut toutefois pécher véniellement en défendant la vérité et même causer quelques scandales. Donc il y a un texte ici de saint Paul, 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. « Ne vous livrez point à des disputes de paroles. Elles ne sont bonnes qu'à pervertir ceux qui les entendent. » Donc il faut faire attention. Parfois, il faut être ferme. Parfois, il faut être ferme. Vous regardez par exemple le titre des grands ouvrages de polémique, par exemple d'un saint Jérôme ou d'un Tertullien. C'est toujours contre telle hérésie, contre telle personne, contre telle hérétique. Enfin, deuxième article, c'est une question très courte, la question 38. La dispute vient-elle de la vaine gloire? Et la réponse est oui. La dispute vient de la vaine gloire. Si la discorde est fille de la vaine gloire, parce que ceux qui sont en désaccord s'attachent à leur propre sens, il en doit être de même des disputes où chacun défend son propre sentiment. Oui. Donc il faut que ça soit régulé par la raison. C'est là où intervient le don de sagesse. Le don de sagesse qui va nous dire, là il faut se taire, là il faut attendre, là il faut que je nuance mon jugement, là il faut que je parle d'une façon plus douce. Là, au contraire, il faut que je sois plus pertinent. Et il faut apprendre, si vous voulez, à parler avec les gens en ayant la fierté, bien sûr, de la vérité, mais en faisant très attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Vous avez parfois des gens qui ont des idées vraies, des idées bonnes, et dans la façon dont elles les présentent, elles les présentent avec un tel orgueil que tout le monde s'enfuit en courant. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Passons à la question 39, qui est une question importante. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir mis plus de passage, cette question 39, sur le polycopier. C'était un polycopier que j'ai fait il y a plusieurs années. Maintenant, je crois que si j'avais à le refaire, je rajouterais certaines choses ici. En page 97, sur le polycopier, en bas de la page, j'ai mis simplement une phrase. Il n'y a aucun schisme qui ne se fasse, qui ne se façonne, qui ne façonne. Il n'est aucun schisme qui ne se façonne quelque hérésie pour justifier son éloignement de l'Église. Ce qui est très important, c'est de comprendre que dans saint Thomas, le schisme est un péché contre la charité. Et c'est un péché gravissime parce qu'il coupe, si vous voulez, c'est la coupure du cordon ombilical qui me réunit à l'Église du bon Dieu. Alors voyons un petit peu cette question, qui est une question quand même très importante, question 39 de la Seconda Seconde. C'est une question en quatre articles. Premier article, le schisme est-il un péché spécial? Alors, la charité, dit saint Thomas, unit non seulement une personne à une autre par le lien spirituel de l'amour, mais encore toute l'Église dans un même esprit. Donc la charité unit les choses. Au contraire, le schisme, on va voir ça, le schisme va détruire cette unité, détruire cette charité. L'unité que produit la charité au sein de l'Église est la principale de toutes les unités. Donc, la richesse première de l'Église, c'est la charité. Attention, la vertu théologale de charité, ça veut dire quoi? Dire l'amour du bon Dieu, l'amour de son Église, l'amour de la loi du bon Dieu et l'amour du prochain pour la plus grande gloire du bon Dieu. Alors, ensuite, il va expliquer ce qu'est le schisme. L'union des fidèles s'y rapporte, donc se rapporte à cette charité, comme la collection de nos membres se rapporte à l'unité de notre corps. Y porter atteinte par cette scission que l'on nomme schisme, c'est évidemment un péché spécial. Et je coupe un membre. Je coupe la branche de l'arbre et ne sera plus capable d'avoir une sève pour l'alimenter, qui va pourrir et qui va mourir. Comme l'unité de l'Église, dit saint Thomas, se compose tout à la fois de la connexion de ses membres entre eux et leur union avec un seul et même chef, qui est Jésus-Christ, représenté par le souverain pontife, on appelle proprement schismatique les hommes qui, refusant de se soumettre au souverain pontife, ne veulent point rester unis avec les membres de l'Église soumis à sa juridiction. Par conséquent, dit saint Thomas, se séparer volontairement avec intention de l'unité de l'Église, spécialement du pape, voilà le péché du schismatique. C'est évident que cette affirmation est très importante aujourd'hui et doit être comprise. Parce qu'évidemment, si on la comprend de travers, les gens vont nous dire: Ah, mais alors vous refusez François à Rome, donc vous êtes schismatique puisque vous refusez l'autorité de l'Église, l'autorité de l'Église, de l'Église officielle. La réponse est toute simple, en fait. C'est une réponse que je donne souvent quand on me pose la question, et Dieu sait si. C'est une question qu'on entend souvent, plus ou moins de mauvaise foi d'ailleurs en général, mais les gens nous posent la question, Monsieur l'abbé, est-ce que vous reconnaissez le pape? Alors, je suis obligé de dire, le pape comme vicaire du Christ, bien sûr que je reconnais tous les papes légitimes de l'Église qui ont été vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous reconnaissez, ils vont me poser la question d'une autre façon en général, pour vous, qui est Benoît, qui est François Bergoglio à Rome? Et je réponds toujours de la même façon. Je réponds, François, pour moi, c'est le pape. Je le reconnais comme pape de l'Église de Vatican II. Donc, quand on me demande, est-ce que vous reconnaissez François? Je dis, je reconnais François comme pape de l'Église de Vatican II. Mais il est évident que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église du Christ, puisque l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Donc je ne reconnais pas le François comme pape de l'Église catholique, mais je reconnais François comme pape de l'Église de Vatican II. Mais l'Église de Vatican II n'est pas mon Église. Donc, la volonté, si vous voulez, d'un schismatique, c'est de se couper de l'autorité légitime du successeur légitime de Saint-Pierre. Donc, se séparer volontairement, avec intention, de l'unité de l'Église, de la charité de l'Église, c'est le péché de schisme. Alors, il est évident que le rôle du pape étant de garder le dépôt de la foi, donc, si j'ai l'intention de me couper du pape parce que j'ai l'intention de me couper de l'Église du Christ, c'est évident que là, il y a schisme. Et ce schisme va entraîner très rapidement l'hérésie. Mais nous ne sommes pas schismatiques parce que nous ne sommes pas contre le pape avec un grand P. Nous ne sommes pas contre la papauté. Je connais sans aucun problème tous les papes légitimes depuis Saint-Pierre jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958. Mais à partir du moment où les successeurs de Pie XII, commencé par Jean XXIII, qui fut un des pires, jusqu'au triste sire qui est actuellement sur le siège de Saint-Pierre, ou qui prétend être sur le siège de Saint-Pierre, François Bergoglio, eh bien, il est évident qu'à partir de Jean XXIII, j'ai devant moi des gens qui ne veulent plus conserver le dépôt de la foi, donc qui ne veulent plus agir comme pape, mais qui veulent agir comme des ennemis du pape, comme les ennemis des papes. Alors attention, il faut savoir répondre à une objection qu'on entend très souvent en disant « Comment pouvez-vous être si sûr de vous alors que vous avez contre vous tous les évêques du monde entier ?» Et je réponds toujours de la même façon « Comment pouvez-vous suivre 4 ou 5 papes depuis, soi-disant papes depuis la mort du pape Pie XII en 1958 contre tous les papes en 2000 ans d'église ?» En général, ça suffit pour les calmer. Alors, Saint Thomas, cite Saint Paul. Donc, il parle du péché qui était condamné par Saint Paul, vainement enflé de sa prudence charnelle. Il ne demeure pas uni au chef, dont le corps entier reçoit l'influence par les vaisseaux qui en joignent et qui en relient toutes les parties. Donc, il faut comprendre dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, qui est l'esprit de l'Église, le schisme va contre l'unité de l'Église. L'hérésie va contre la foi. Oui, donc là, l'hérésie va contre la foi théologale, le schisme va contre la charité théologale. L'unité de l'Église, c'est la charité. Donc le schisme est un péché contre la charité, et c'est la raison pour laquelle ce grand docteur de l'Église, qui était saint Thomas d'Aquin, va casser le schisme parmi les conséquences mauvaises, les ennemis de la charité, parmi les vices contraires de la charité, il va donc mettre avec raison le schisme, parce que pour lui, le schisme détruit l'unité de l'Église. Qui détruit l'unité de l'Église détruit la charité. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu une unité dans son Église. Unité de foi, unité de sacrement, unité des personnes dans l'Église. Mais une unité qui puisse promouvoir la charité. Donc ça, je pense que c'est le point le plus important. Schisme va contre l'unité, donc contre la charité théologale. L'hérésie va contre la foi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le schisme et l'hérésie ont un lien. Le schisme amène 99,9 fois sur 100, amène à l'hérésie. On commence par être schismatique et on finit dans l'hérésie. Et souvent, on est déjà schismatique, on est de la foi, très souvent c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est schismatique, mais en même temps, on est déjà un peu hérétique parce qu'on refuse un dogme de la foi catholique. Donc celui qui refuse de rester uni avec les membres de l'Église soumis à la juridiction du pape légitime est un schismatique. Celui qui refuse un dogme de la foi catholique est un hérétique. S'il refuse un dogme de la foi catholique de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que ce qu'il refuse est un dogme de la foi catholique, c'est ce qu'on appelle une hérésie matérielle. Au contraire, s'il est de mauvaise foi, qu'il sait très bien que ce qu'il refuse a toujours été enseigné par l'Église comme dogme de la foi catholique, c'est une hérésie formelle. Deuxième article. L'infidélité, le schisme est-il un péché plus grave que l'infidélité? Non. Donc voilà la distinction de saint Thomas. L'infidélité est un péché contre Dieu, considéré comme la vérité première. Le schisme est seulement opposé à l'unité de l'Église, qui est un bien particulier et moindre que Dieu lui-même. Il s'ensuit donc que l'infidélité est dans son genre un péché plus grave que le schisme. Pourquoi? Parce que l'infidélité. Pourquoi? Parce que l'infidélité est dans son genre un péché. Parce que l'infidélité va contre Dieu directement. Alors que le schisme va contre Dieu indirectement. Donc saint Thomas précise bien que pour lui, donc, l'infidélité est dans son genre un péché plus grave que le schisme. Voilà ce qu'il dit. L'infidélité est un péché contre Dieu considéré comme la vérité première. Le schisme est seulement opposé à l'unité de l'Église, qui est un bien particulier et moindre que Dieu lui-même. Il s'ensuit donc que l'infidélité est dans son genre un péché plus grave que le schisme. Il peut arriver cependant que le schismatique pèche plus grièvement que l'infidèle, soit à cause d'un plus grand mépris, soit par les suites de son péché, soit pour d'autres motifs. Donc le schisme qui est contraire au bien spirituel de la société ne le cède en gravité à aucun des péchés contre le prochain. Donc le schisme étant, si vous voulez, un péché contre la charité directement opposé à Dieu, a une gravité tout à fait spéciale. Autre question, autre article, les schismatiques ont-ils quelque pouvoir? Donc c'est l'article 3 de la question numéro 39. Il a dit saint Thomas va faire les distinctions qui s'imposent, évidemment. Ce sont des parties très importantes parce que c'est des parties très actuelles dans la situation qui est la nôtre. Faut pas oublier que même si nous sommes cédévacantistes et nous sommes orphelins d'autorité, nous sommes orphelins d'autorité à contre-cœur, je dirais. Il faut souffrir de ça. Faut pas se dire, je suis orphelin d'autorité, j'ai pas d'autorité au-dessus de moi, chouette, je peux faire ce que je veux. Non. Je dirais, plus que jamais, les cédévacantistes ont besoin de suivre ce que l'Église catholique a toujours fait pour pas en faire qu'à leur tête, sinon on tombe vraiment dans l'esprit schismatique. Donc, saint Thomas rappelle un point du catéchisme très important pour le sacrement de l'ordre, qui a un double pouvoir spirituel, un pouvoir sacramentel et un pouvoir de juridiction. Le prêtre a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir d'ordre, un pouvoir sacramentel. Ce pouvoir sacramentel correspond au caractère, en quelque sorte, au caractère que reçoit le prêtre le jour de son ordination sacerdotale. N'oublions pas qu'il y a trois sacrements qui ont un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Donc l'ordre va donner le caractère de ministre de Dieu. Le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu et la confirmation de soldat de Dieu. Donc le pouvoir d'ordre, le pouvoir par lequel le prêtre est soldat du Christ. Est ministre du Christ. Ce pouvoir d'ordre est tellement attaché à l'âme de la personne consacrée, à l'âme du prêtre, qu'aucune autorité au ciel et sur la terre ne peut l'enlever. Un prêtre est toujours prêtre. Tu es sacerdoce in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Alors ça, attention, c'est très important. Alors, à côté de ce pouvoir sacramentel, il y a un pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction, dans l'état normal des choses, est conféré par l'évêque. C'est pour ça qu'un évêque qui ordonne quelqu'un n'ordonne jamais un séminariste, un diacre, qui n'est pas rattaché à quelque chose, qui ne soit pas rattaché à une organisation religieuse, à un couvent, à un monastère, à un diocèse. Bon. Donc, il y a un pouvoir de juridiction qui va donner pouvoir à ce prêtre sur les âmes. Donc il y a deux choses, pouvoir sacramentel, pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction est un pouvoir qui peut être ôté par les supérieurs ecclésiastiques dans des cas très graves, mais pas le pouvoir sacramentel. Donc imaginez un prêtre scandaleux, donc l'évêque peut lui interdire, lui retirer la juridiction ordinaire pour confesser. Mais il ne peut pas faire que cette personne ne soit plus prêtre. Même dans des cas extrêmes, comme une réduction à l'état laïque, par exemple, quand malheureusement des choses épouvantables comme cela arrivent, une réduction à l'état laïque ne détruit pas le sacerdoce du prêtre. Une réduction à l'état laïque n'a aucun effet sur le caractère sacerdotal de la personne en question. Il est toujours prêtre. Même s'il vit avec une femme avec 15 enfants, il est toujours prêtre, parce qu'il a toujours le pouvoir d'ordre. Donc, reprenons un petit peu cette question, l'article 3, les schismatiques ont-ils quelques pouvoirs ? Donc, saint Thomas dit, il y a un double pouvoir spirituel, un pouvoir sacramentel, un pouvoir de juridiction. Donc, le pouvoir sacramentel demeure, quant à son essence, dans l'homme qu'il a reçu par la consécration, alors même que cet homme devient schismatique ou hérétique, car toutes les consécrations faites par l'Église sont permanentes. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Mais la puissance inférieure ne devant se porter à l'action que sous la motion de la puissance supérieure, le schisme et l'hérésie font perdre l'usage légitime de ce pouvoir. C'est-à-dire un schismatique, un hérétique, n'ont plus le droit d'agir au nom de l'Église, puisqu'ils ne sont plus d'accord avec l'Église, puisqu'ils ne représentent plus l'Église catholique, puisqu'ils ne sont plus les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, mais des ennemis. Les schismatiques et les hérétiques, dit saint Thomas, ne peuvent donc pas s'en servir licitement, quoique exercés illicitement, ils produisent son effet dans les sacrements où l'homme n'agit que comme instrument de la divinité. Dire un schismatique, un hérétique, qui prononce les paroles de la consécration avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église sur un bout de pain, eh bien, il transforme la substance du pain en la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir de juridiction, au contraire, qui est conféré par la simple volonté de l'homme, n'est point immuable. Je rappelle, pouvoir d'ordre immuable ne peut pas être ôté, caractère sacerdotal. Pouvoir de juridiction, il peut être supprimé de façon permanente ou de façon provisoire. Le pouvoir de juridiction, dit saint Thomas, qui est conféré par la simple volonté de l'homme, n'est point immuable. Il ne survit ni au schisme ni à l'hérésie. Les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni accorder aucune indulgence. Sauf, ça c'est très important, cas de danger de mort. En cas de danger de mort, un prêtre, même dépourvu de toute juridiction ordinaire, un prêtre qui a été excommunié, un prêtre qui est schismatique, un prêtre qui est hérétique, danger de mort, il a devant lui un accident, une personne qui conduisait une voiture devant lui perd le contrôle de la voiture rentre dans un platane, la personne est en train de mourir coincée entre la colonne de direction de la voiture et le platane, il y a tout le monde qui est là, et la personne qui est en train de mourir demande un prêtre. Et le prêtre qui est là et qui arrive, la personne s'est arrêtée évidemment, qui arrive derrière, il est prêtre, mais il est prêtre sans aucun pouvoir de juridiction parce que c'est un prêtre scandaleux qui a perdu son pouvoir de juridiction. Et bien, dans un cas comme cela, l'Église lui rend tous les pouvoirs pour qu'il puisse absoudre cette personne et absoudre cette personne pratiquement de toutes les censures possibles et imaginables. Parce qu'il n'y a qu'un danger de mort. Donc, quand saint Thomas dit les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni accorder aucune indulgence, notez que saint Thomas ne dit pas que les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre ni excommunier après condamnation. Il dit que dès qu'une personne, en fait c'est ça que ça veut dire, dès qu'une personne devient schismatique ou hérétique, elle ne peut plus ni absoudre ni excommunier parce que justement elle a perdu son lien avec la charité de l'Église. Le schisme, rappelle-vous, le schisme est un péché contre l'unité de l'Église, contre la charité de l'Église. Dans ces principes, dit saint Thomas, lorsqu'on l'on dit que les schismatiques et les hérétiques n'ont pas de pouvoir spirituel, on doit comprendre qu'ils n'ont pas de pouvoir de juridiction. Et si on veut parler du pouvoir sacramental, il faut entendre seulement qu'ils n'ont pas l'exercice légitime de ce pouvoir. Donc dans l'esprit de saint Thomas, qui est l'esprit de l'Église, attention, une personne qui est schismatique ou hérétique n'a plus le pouvoir dans l'Église parce qu'il s'est coupé par un péché contre la charité de l'unité de l'Église. Alors le plus grand des schismatiques actuellement, mais il s'appelle Bergoglio, ça c'est sûr et certain. Et c'est le plus grand des révolutionnaires. Quand les gens me demandent, ça arrive assez souvent comme question, quel est pour vous le plus grand révolutionnaire existant actuellement? Je réponds toujours Bergoglio. Parce que malheureusement, il utilise son aura extérieure pour détruire l'Église. Il fait beaucoup plus de mal parce que la destruction qu'il opère vient de l'intérieur. C'est exactement frappé. Donc, Bergoglio, refusant catégoriquement de garder le dépôt de la foi, pêche contre à la fois l'unité de l'Église, donc la charité. Donc il commence un schisme, il est schismatique à cause de ça, et c'est en même temps un péché public contre la foi. C'est évident que quand Bergoglio va raconter des inepties sur le mariage chrétien ou des choses comme ça, et bien c'est un péché contre la foi. Donc il est à la fois hérétique et à la fois schismatique. Et saint Thomas dit, un schismatique et un hérétique ne peut ni absoudre, ni excommunier, ni accorder aucune indulgence. Est-il possible pour un péché, pour un pape d'être schismatique et hérétique? Réponse impossible, puisque le pape est protégé en matière de foi et de mœurs par l'infaillibilité pontificale, dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Oui, mais on voit bien que Bergoglio, François à Rome, dans la pratique, il tombe constamment contre l'unité de l'Église, contre la charité de l'Église, et que lui enseigne à longueur de journée des choses qui vont contre la foi et les mœurs. C'est impossible, s'il était pape. Puisque malheureusement, dans la pratique, c'est ce qui se passe, la seule conclusion possible qu'on puisse en tirer, eh bien, c'est qu'il n'est pas pape. C'est pour ça que le célévacantisme actuellement n'est pas, attention, j'insiste là-dessus, hein. Le célévacantisme n'est pas une opinion théologique, mais une conclusion théologique. C'est pas du tout pareil. Je suis pas du tout opinionniste. Les opinionnistes sont ceux qui disent c'est une simple opinion théologique de penser qu'il n'y a pas de pape actuellement. Non, c'est une conclusion théologique. Puisque le pape est protégé par le magistère de l'Église, par le fait qu'il soit pape, protégé par l'infaillibilité pontificale dans son magistère ordinaire et extraordinaire quand il parle sur la foi et les mœurs, puisque, deuxième point, la personne à Rome qui se fait passer pour François, successeur de Saint-Pierre et François Bergoglio, va contre, a agi, prêche contre la foi et les mœurs à longueur de journée, ce n'est pas possible puisqu'il est protégé par l'infaillibilité pontificale. Malheureusement, c'est le cas. Seule solution possible, c'est qu'il n'est pas pape. J'avais une autre solution. Je serais content de l'avoir, mais je n'en vois pas d'autre. Article 4. Est-il convenable, je vais terminer par cet article, est-il convenable de punir les schismatiques par l'excommunication? Donc saint Thomas dit, un homme doit être puni par là où il a péché. Le schismatique se sépare de la communion des membres de l'Église. Et sous ce rapport, il convient de l'excommunier pour le punir. Car il est écrit, « Éloignez-vous de la tente des impies et gardez-vous de toucher à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne soyez enveloppés dans leur péché. » Vous voyez, comme, je pense qu'il faut relire, je conseille beaucoup à ceux qui ont la somme, de relire complètement la question numéro 39. Sur le schisme. Je pense que le point important, se rappeler ce que j'ai expliqué au début, le schisme, c'est le péché contre l'unité et la charité, l'hérésie, c'est le péché contre la foi, qui a un lien évidemment entre les deux choses. Alors on va en arrêter pour aujourd'hui. Il nous restera la prochaine fois, on arrive presque à la fin de ce traité sur la charité. Le traité sur la charité s'arrête à la question 46. Donc il y a encore 6 petites questions, mais des questions pratiques très intéressantes. Entre autres, la question 40 sur la guerre licite et la guerre illicite, la guerre juste et la guerre injuste. Donc on verra ça, si Dieu veut, la prochaine fois. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.